Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, le portrait d'un écrivain espagnol, adulé dans son pays, mais très peu connu en France, Benito Pérez Galdós. Grâce au magazine Books, notre partenaire qui lui consacre un long article dans son numéro d'octobre, nous saurons tout sur ce Balzac hispanique en fin d'émission. Mais pour commencer, place à l'un des grands auteurs italiens contemporains, Eri De Luca. Originaire de Naples, dans un quartier populaire, ouvrier, militant, il se lance vers 40 ans dans l'écriture tout en restant un homme engagé. En témoignent ses romans brefs, intenses, nourris de l'histoire de l'Italie, comme son nouveau livre intitulé « Impossible », un face-à-face tendu entre un juge et un ancien révolutionnaire. Un texte dont nous parlons dans un instant avec Eri De Luca, juste après cet extrait de la version audio du roman paru dans la collection Écoutez lire de Gallimard, avec ici Denis Podalydès de la Comédie Française et Laurent Natrella.
Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée?
Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages. À plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrai que répéter ce que j'ai déjà dit.
Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant.
Peut-être. Mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogé par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi, je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir.
Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée.
Je me réveille tôt, vers 5h. J'attends 7h pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre. Je me lave les dents. Je sors. Je prends ma voiture. Et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles, en dehors des sentiers battus, pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du Bandiarac, en Val Badia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Capanna Alpina au col de Loccia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'ai été étonné de voir quelqu'un plus haut qui me précédait.
Un homme ?
Oui, un homme.
Impossibile. En italien, impossible en français. Bonjour Eri De Luca.
Bonjour à vous.
C'est le titre de votre nouveau roman, traduit aux éditions Gallimard par Daniel Valin. Et c'est d'une certaine façon le cri lancé par l'un de vos deux personnages, un magistrat qui, lors d'un interrogatoire, ne croit pas que son témoin s'est retrouvé par hasard en montagne, à quelques mètres d'un homme mort, tombé dans un ravin, puisque les deux se connaissaient et étaient ennemis, d'où le soupçon d'un meurtre et non d'un accident. Et vous, Eri De Luca, vous croyez aux coïncidences ou c'est impossible ?
Non, je crois les coïncidences et je regrette de ne pas les cueillir toutes, les coïncidences, parce qu'il y a beaucoup de coïncidences qui nous arrivent et desquelles on ne s'aperçoit pas. Et donc, je voudrais être plus reconnaissant envers les coïncidences et les connaître mieux parce qu'elles décident de notre parcours. Dans la vie de chacun, il y a des circonstances presque du maximum d'improbabilité qui se produisent et qui décident de notre action et de notre comportement.
Et donc, de ce point de vue-là, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le juge qui lui dit qu'il n'y a pas de coïncidence, que c'est impossible. Et c'est évidemment l'un des enjeux de votre livre qui est bref, tranchant, comme souvent chez vous d'ailleurs, Eri De Luca, et qui est donc à la fois la restitution de l'interrogatoire entre le juge et son témoin sous forme de questions-réponses, sans commentaires, et que vous alternez dans la narration avec des lettres que l'homme incarcéré adresse à sa bien-aimée quand il retourne dans sa cellule. C'est donc un récit autant oral que littéraire, qui décline le dialogue, le monologue, le théâtre, la fiction, le roman épistolaire, voire le roman noir et politique. Qu'est-ce que cette construction multiple vous permet de révéler, de mettre à jour, Eri De Luca ?
Vous énumérez toute une série de formats que je n'ai pas décidé de le mettre ensemble. J'ai commencé cette histoire en écrivant les premières lignes de l'interrogatoire. Et après terminer la première section de l'interrogatoire, j'ai eu la nécessité de faire connaître mieux ce personnage inculpé, âgé, qui avait déjà purgé vingtaine d'années de prison pendant sa jeunesse et qui se trouve coincé dans une cellule. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans une cellule? On peut évoquer des personnes ou des souvenirs pour se tenir compagnie. Il se tient compagnie avec des vers qu'il connaît par cœur, des chansons, des proverbes. Et après, avec une lettre qu'il écrit à sa fiancée, à sa femme. Et alors, quand on écrit une lettre, c'est comme si convoque la personne absente. Moi, j'écris beaucoup de lettres dans ma vie. Avant qu'arrive l'ordinateur pour lancer des messages très vite, j'avais toute une histoire de lettres écrites et reçues à distance. Et donc, je sais qu'à travers les lettres, une personne qui se trouve dans un autre lieu, dans un autre temps, peut prétendre la présence, peut convoquer la présence du destinataire ou de la destinataire. Ça, c'est la force des lettres. Et je me suis trouvé souvent à écrire des lettres d'amour comme ça, et avoir le sentiment que la personne est en train de m'écouter directement. Et comme ça aussi quand j'écris une histoire, c'est une histoire de mon passé, il y a des personnes qui sont plus là, et voilà que dans cette histoire de mon passé, quand je l'écris, je les extrais de leur absence. Ils sont autour de moi. Donc j'ai une espèce de chamanisme de mon écriture, mais chamanisme personnel, qui fonctionne, qui marche seulement pour moi.
Alors, je m'arrête là sur ce que vous venez de dire, Eri De Luca. Vous dites que c'est une histoire de votre passé.
Donc,
ça veut dire quoi? Que vous vous êtes retrouvé dans cette situation face à un juge et que vous aussi, à une époque, vous avez commencé d'écrire des lettres dans une situation similaire?
Donc, j'ai été un militant révolutionnaire pendant les années 70.
Bien sûr.
Mais mon organisation révolutionnaire s'appelle Lotta Continua et est une organisation révolutionnaire publique. Ça veut dire que nous intervenions dans les usines, dans les écoles, nous faisions des manifestations, nous avons un journal. Donc c'était un mouvement qui avait toutes des manifestations ouvertes. Donc ici, dans cette histoire, il s'agit d'un militant qui a participé d'une lutte clandestine armée. Donc c'est une chose complètement différente. Même l'exitus de cette différence consiste dans le fait qu'il a purgé une vingtaine d'années de prison.
Ce qui n'est pas votre cas en effet.
Absolument non. Bon, j'ai été raflé comme tout le monde dans les manifestations, mais ça c'était normal. Non, donc c'est, biographiquement c'est pas la même chose. Mais les lettres, oui, les lettres sont mes lettres d'amour que je lui ai prêtées.
Donc il y a bien une différence, Eri De Luca, entre vous et ce personnage que vous mettez en scène face à un juge. Et en même temps, il y a une autre partie de votre vie qui est très présente ici, c'est la montagne. Puisque vous êtes un alpiniste chevronné, vous connaissez bien... Oh, ne faites pas le modeste, là,
je suis un pratiquant d'alpinisme.
Voilà, vous aimez ça, en tout cas, et vous connaissez. Et je me demandais pourquoi est-ce que, précisément, vous aviez choisi la montagne comme cadre de cet affrontement entre les deux hommes, dont on ne va rien dire, on ne va pas savoir forcément ce qui s'est passé. Mais c'est comme si... À défaut de la justice des hommes, vous pouviez sous-entendre qu'il y avait une justice de la nature ou pas, Eri De Luca ?
Non, la nature ne juge pas. Non, il n'y a pas une justice comme ça. Ou s'il y a là, je ne m'aperçois pas. S'il y a une justice de la divinité qui agit à travers la nature, ça je ne peux pas le dire ni le croire. Mais la montagne, pour moi, c'est un endroit plus intense. C'est un peu le contrepoids de Napoli, pour moi.
C'est où vous vivez, Naples ?
Non, c'est la ville où je suis né et grandi jusqu'à 18 ans. Donc c'est la ville de mon adolescence, de ma langue maternelle, de mon éducation sentimentale. Et certaines de mes histoires sont coincées dans Naples. Et ici, c'est comme ça. La montagne est la protagoniste de cette histoire. La montagne, avec ses dangers pris volontairement et volontiers, sont des dangers libres qu'on choisit de prendre en la connaissant, la montagne. Ça, c'est une différence pour moi, que j'ai fait des métiers d'ouvrier pendant beaucoup d'années, une vingtaine d'années, et je me suis trouvé à prendre des risques obligatoires que je pouvais pas gérer ni contrôler, parce que c'était autour de moi et des machines, des outils, et qui s'accumulaient, ces risques, à fur et à mesure que la fatigue se chargeait sur le corps. Et j'ai vu différents amis, camarades de travail qui sont morts ou se sont gravement blessés. Donc là, il y a des risques obligatoires à prendre. Et il faut les prendre, on ne peut pas faire différemment. Et c'est la première objection que l'accusé fait au magistrat. Il dit, mais là, en montagne, il n'y a que des accidents. Les meurtres ne sont pas compris dans la statistique de la montagne.
Et là, quand vous répondez à cette question, Henri De Luca, vous vous animez, on sent qu'il y a une sensibilité qui est plus proche de ce personnage que du juge. Et en même temps, par cette construction, par la confrontation, vous mettez bien en place un dialogue où chaque point de vue alterne. Mais ce sont deux visions de la vie et deux expériences différentes. On l'a dit, celui qui pose des questions ne connaît pas la montagne. Il a une conception de la justice qui est très procédurale. Il est beaucoup plus jeune que celui qui l'interroge, qui donc est un grimpeur, militant politique, qui a connu la prison. Et c'est comme si c'était deux générations qui n'arrivaient pas à se comprendre, parce que chacun d'entre eux a un idéal qui appartient à une autre époque. Est-ce que c'est aussi l'enjeu de ce livre impossible, un dialogue impossible?
Normalement, entre un magistrat et un accusé, le dialogue ne se produit pas. C'est impossible. Mais dans cette histoire, oui, est possible. Mais parce qu'il arrive quelque chose d'imprévu. Il y a une différence, comme vous l'a souligné, le magistrat est jeune et l'accusé est ancien. Le magistrat ne sait rien de la montagne, ni rien de ce qui s'est passé dans les années de la lutte révolutionnaire en Italie, sauf les actes judiciaires qu'il a pu consulter. Donc, il se trouve dans une condition d'infériorité face à l'accusé, qu'il est plus compétent de lui sur les matières. Mais il est, comme position, sa position est une condition de supériorité.
Oui, parce qu'il incarne l'État.
Le magistrat, il est l'État, et l'autre est un simple accusé qui doit se défendre. Et donc, on bascule, et on arrive à une espèce d'égalisation qui permet de déraper vers le dialogue. Parce que dans un interrogatoire, je n'ai eu d'interrogatoire dans ma longue carrière
de militant,
et jamais le dialogue. Le dialogue existe maintenant, parce que vous pouvez poser des questions pour savoir quelque chose de moi. Vous êtes intéressé à mon œuvre, à ce que je dis. Donc, c'est votre curiosité qui pose la question, et mes réponses essaient d'être à l'auteur de la question. Mais dans la question de l'interrogatoire, c'est pas la question de poser des questions pour savoir. Le magistrat prétend de savoir déjà. Il pose des questions pour avoir la confirmation de son hypothèse d'accusation. Donc c'est pas un dialogue, on se produit pas un dialogue. Mais ici, il y a une exception qui dépend de cette incompétence pratique du magistrat, et aussi de sa curiosité. Il n'est pas quelqu'un qui se méprie de savoir si ou non. Il a un côté de curiosité personnelle. Et donc ce côté de curiosité personnelle est un peu satisfait par l'accusé qui lui explique des choses.
Donc à défaut de dialogue réel, en tout cas il y a un échange de points de vue. Alors je voudrais revenir avec vous, Henri De Luca, sur l'homme qui est mort. celui qui est tombé dans la crevasse. Il est présenté par son ancien ami comme un traître, puisque 40 ans auparavant, il a dénoncé les membres de son groupe révolutionnaire. Et vous, Hervé de Luca, qui avez été donc longtemps militant, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti trahi aussi ?
Non. Non, je prends des engagements et des prises de position comme citoyen. Comme citoyen qui profite d'être connu comme écrivain, parce que comme ça, ma voix est plus écoutée. Mais ce n'est pas ma voix qui est écoutée. C'est la voix des personnes qui se battent, par exemple dans la Val de Susa, qui sont, à travers mon procès que j'ai subi en Italie, pour des choses que j'avais dit à propos de la Val de Susa, j'ai passé des ans de procès, qui à travers mes mots, cette lutte a été plus connue. Donc j'ai appris comme ça, qu'est-ce que c'est le rôle de quelqu'un qui a un droit de parole publique, d'un écrivain. C'est pas tout simplement de faire la promotion de ses livres. C'est de donner les mots à ceux qui ne l'ont pas. Il y a un vers de la Bible, du proverbe, qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Ça, c'est le rôle d'un écrivain. Ouvrir la bouche pour le muet, qui n'est pas quelqu'un sans corde vocale, qui a les cordes vocales et toutes les raisons, mais personne ne l'écoute. Et alors, je ne fais pas le porte-parole, mais je suis l'amplificateur du message de cette personne. C'est la chose qui s'est produite. Je ne la savais pas d'avant. Mais c'est passé comme ça. Et j'ai compris que ça peut être le rôle d'un écrivain. C'est plutôt comme une espèce de rôle du cordonnier, non? Si un cordonnier veut faire quelque chose de plus que faire bon les chaussures, il doit agir parce que tout le monde puisse aller avec des bonnes chaussures dans la rue.
Avec vous, donc, Hervé de Luca, à la fois nous parlons de ce roman Impossible qui a paru chez Gallimard, et puis nous glissons dans le statut d'écrivain que vous êtes et de citoyen engagé. C'est là où vous avez d'ailleurs peut-être une petite différence avec votre personnage ici inculpé dont on a parlé, parce que lui, il a l'air un peu plus aigri. Donc je peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Si vous êtes dans la montagne, que devant vous, il y a un homme qui se trouve avoir trahi votre cause, comment est-ce que vous réagissez ? Vous le suivez ? Vous lui parlez ?
Non, je l'ignore.
Vous l'ignorez ?
Je l'ignore. Mais si jamais il se trouve en danger, je dois inévitablement...
Le sauver ?
Le sauver. L'aider. Je ne sais pas si j'arrive à le sauver, mais l'aider. Même risquer moi-même pour le sauvetage. Ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas un choix, non ? Quand une loi italienne a interdit aux pêcheurs de sauver des gens qui étaient en train de se noyer, bon, c'était une loi qui l'accusait de complicité dans l'immigration clandestine et on séquestrait son bateau. Donc c'était une loi exactement qui était contre le secours obligatoire. Donc une loi de omission de secours. C'était une loi injuste. Souvent, il y a une contradiction entre légalité et justice.
Et donc, vous le disiez tout à l'heure, ici, c'est à la fois le citoyen et l'écrivain Hervé de Luca qui s'insurge publiquement.
Oui, mais c'est le citoyen. Moi, en tant que citoyen, j'insurge. Comme écrivain, j'écris des histoires. Et j'essaie d'être loyal avec les raisons de l'histoire. Ça veut dire que dans ce cadre de dialogue entre un magistrat, que ce n'est pas mon côté, et l'accusé, que c'est plutôt mon côté, j'ai cherché et je crois d'avoir trouvé une équanimité entre les deux, être dans les deux raisons contemporanément.
Et d'entendre les deux versions.
Les deux versions et soutenir les deux versions.
Mais qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous, Hervé de Luca, pour résister ? C'est écrire un livre ou manifester dans la rue ?
Écrire un livre, c'est la définition de moi-même. La seconde définition de moi-même, parce que la première définition de moi-même est que je suis un lecteur. J'ai lu beaucoup plus que j'écris. Je peux lire dans des autres langues, je peux écrire qu'en italien. Donc, c'est la définition de moi-même. Au dehors de ça, je suis un citoyen qui emploie, exploite, je peux dire. Je peux dire vulgairement d'exploiter ma petite reconnaissance publique pour faire d'amplificateur des voix de certaines personnes qui se battent pour leurs droits.
Donc, c'est plus efficace pour vous d'écrire un livre pour résister plutôt que de manifester dans la rue ?
J'écris un livre pour tenir compagnie à moi-même d'abord et aux personnes de l'autre, mais sans aucune thèse à l'intérieur. Je n'ai rien à démontrer. Je raconte la vie. Donc, et la vie n'a rien à démontrer.
Et c'est pour ça que vous écrivez toujours des livres aussi brefs, aussi intenses ?
Je pense que la brevité, c'est une courtoisie de ma part, un acte de bonne éducation. Parce qu'un livre est comme un hôte chez le lecteur. Et donc le hôte doit se lever de la table tant qu'il est encore apprécié et désiré.
C'est en effet de l'élégance, donc.
Non, c'est de la prudence, je peux dire.
Merci beaucoup, Ré de Luca, de nous avoir fait partager à la fois votre conception de l'écriture et aussi votre engagement comme citoyen, comme écrivain. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans l'ensemble de votre œuvre, mais particulièrement dans ce nouveau roman, Impossible, qui a paru chez Gallimard. Et je signale également que votre précédent roman, Le Tour de l'Oie, paraît en poche dans la collection Folio. Et puis, Impossible, à nouveau, c'est également un disque, un CD que l'on peut écouter et qui est lu par Laurent Natrella et Denis Podalydès de la Comédie Française. Et d'ailleurs, nous en avons entendu un extrait au cours de cette émission. Voilà, on sait tout de vous, Ré de Luca. Merci encore.
Merci à vous.
Sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvray.
Bonjour.
On parle donc avec vous de ce nouveau magazine Books, le numéro du mois d'octobre 2020 qui est en kiosque avec en couverture La Tentation Autocratique. C'est le dossier du mois. Et pour illustrer cette grande question, Donald Trump, Poutine et Viktor Orban, entre autres, illustrent cette tentation donc de tout pouvoir. Mais avec vous, évidemment, on parle de littérature avec un article formidable qui nous fait découvrir une personnalité espagnole très peu connue en France. Alors c'est à l'occasion du centenaire de sa mort et aussi de la publication d'une grande biographie en espagnol qui n'a pas été encore traduite en français. Et donc il est question de Benito Pérez Galdós, dont Luis Buñuel néanmoins avait adapté au cinéma trois grands textes, dont Viridiana et Tristana. Mais c'est vrai que l'écrivain, on le connaît très peu en France et pourtant il est considéré comme l'équivalent de notre Balzac peut-être.
Oui, c'est ça. Je dois avouer que moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler. Et en Espagne, il est considéré comme le plus grand écrivain du 19e siècle et même le second meilleur romancier espagnol de tous les temps après Cervantes. Et il a une œuvre considérable. Il a écrit une trentaine de romans, auxquels s'ajoutent 46 romans historiques. Il a écrit 23 pièces de théâtre et puis des peut-être 20 volumes d'articles, d'essais divers.
De nouvelles et de récits de voyage.
Exactement. Et on se rend compte que une part infime de cette œuvre a été traduite en français, quelques romans. Mais heureusement, les meilleurs, dont Fortunata et Jacinta, qui est considéré comme son chef-d'œuvre.
On en reparlera peut-être quelques mots sur sa vie, puisque donc c'était un contemporain de Zola. Et il naît donc en 1843 aux Canaries.
Ensuite, il va faire ses études à Madrid parce que on suppose, c'est sa dernière biographe, Yolanda Arencibia, qui enseigne à l'université des Canaries, donc à l'endroit de naissance de Galdós, qui pense qu'il était tombé amoureux d'une cousine. Ça a été le grand drame sentimental de sa jeunesse et que sa mère, pour l'éloigner de cette cousine, l'a envoyé faire son droit à Madrid. Mais le droit ne l'intéresse pas, il préfère écrire et il commence par le journalisme. Et c'est là qu'il va se frotter, un peu comme l'avait fait Balzac d'ailleurs quand il travaillait chez des avocats, des notaires, et aux affaires judiciaires, aux litiges commerciaux, aux drames familiaux qui par la suite vont nourrir ses romans.
D'où donc ce grand cycle romanesque que vous évoquiez au début. Mais les deux sommets de l'œuvre de fiction de Benito Pérez Galdós, ce sont donc Fortunata et Jacinta, ainsi que les épisodes nationaux. Alors ça, il faut rappeler que c'est une série, 5 exactement, de romans historiques. Alors Fortunata et Jacinta, peut-être pour commencer.
C'est un très gros roman qui est un drame social et sentimental avec des rebondissements, comme savaient très bien les faire les romanciers du 19e siècle. Et il repose sur un triangle amoureux classique, le mari, la femme et la maîtresse, tout en offrant un tableau sociologique de la Madrid de la deuxième partie du 19e siècle.
Et les épisodes nationaux, de quoi il s'agit ?
C'est l'histoire d'Espagne du 19e siècle, depuis la guerre d'indépendance de l'Espagne contre l'occupant napoléonien au tout début du 19e siècle, et puis ensuite les rebondissements entre monarchistes, républicains, le rétablissement des Bourbons. Sachant que Galdós était quelqu'un qui, au départ, se définissait plutôt comme libéral républicain, mais il a été déçu par ce courant politique qui, selon lui, était en fait peuplé d'arrivistes et de personnes inconsistantes. Et au fur et à mesure, il s'est rapproché du courant socialiste, voire socialiste révolutionnaire.
Côté vie privée, même si ça n'a pas forcément une importance sur une œuvre, mais là en l'occurrence ça va avoir une importance sur son existence et la fin de sa carrière. Il ne s'est pas marié, mais en revanche il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les femmes.
Oui, c'était une source d'inspiration inépuisable. Il disait « sans les femmes, il n'y a pas d'art ». Et ces femmes l'ont ruiné parce qu'il avait l'habitude de leur offrir à chacune un appartement. Et la fin de sa vie a du coup été assez difficile, et lui qui ne s'était jamais vraiment soucié de prix, de reconnaissance matérielle, a fini par la force des choses à s'en soucier un peu plus, et une partie de ses amis a beaucoup milité pour qu'il obtienne le prix Nobel de littérature. Il est mort avant, il est mort dans des conditions physiques difficiles, il était très diminué, il était devenu aveugle, s'étant fait opérer de la cataracte aux deux yeux. Et il a fini un peu aigri. Il a eu quand même la satisfaction, avant la fin de ses jours, de voir une statue de lui inaugurée à Madrid.
Et en 1920, au moment de sa mort, il faut rappeler à quel point il y a une ferveur populaire intense, puisque 30 000 personnes ont assisté à ses obsèques. On a l'impression de parler des obsèques de Victor Hugo, qui était un événement national aussi.
Oui, c'est ça. Il y aura quand même une différence avec Victor Hugo, qui n'a jamais été oublié par la suite, par la postérité. C'est que lui va connaître un petit purgatoire sous le franquisme, parce qu'il était jugé trop républicain. Il a jamais été complètement oublié, c'était un tellement grand nom que c'était pas possible, mais il ressurgit beaucoup depuis les années 1980, et là, à l'occasion du centenaire de sa mort, plein d'ouvrages sont sortis en Espagne, dont cette biographie de Yolanda Arencibia.
Voilà, que l'on découvre grâce à ce grand article signé Michel André dans ce nouveau magazine Books, qui est donc actuellement à lire et à acheter en kiosque. Merci beaucoup Baptiste.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.